Kick it.
Sommes en ligne à l'antenne de Radio Galère pour un nouvel épisode des Carnets de Comaguerre, comme tous les mardis, sans arrêt pratiquement, toujours en compagnie de Roselyne, ma complice.
Bonjour.
Et à la technique, il y a aujourd'hui Yamine, que je remercie.
Bonjour.
Bonjour Yamine. Voilà, alors je vais commencer par des petites nouvelles et d'abord une annonce. Il y aura ce jeudi, donc on sera le 23 du mois de décembre 2021, un rassemblement sous forme de veillée pour soutenir les Cubains et la République cubaine contre l'embargo, contre les souffrances que l'adversaire états-unien leur impose. Ça sera donc jeudi qui vient, donc dans 48 heures, devant le Palais de la Bourse à Marseille. Donc pour fêter, pour protester, pour fêter Cuba, pour honorer Cuba, pour montrer qu'il y a un soutien populaire dans la rue à Cuba. C'est une manifestation autorisée.
À quelle heure ?
Ça sera entre 19h et 22h, donc devant le Palais de la Bourse, en bas de la Canebière. Et ce sera l'occasion pour dire, ce qui est une nouvelle fraîche, là, l'embargo, hélas, ce n'est pas nouveau, c'est 60 ans, qu'il y a aujourd'hui, il y a eu ces derniers jours, 100 membres du Congrès des États-Unis, démocrates quasiment tous, qui ont écrit une lettre au président Biden pour lui dire « Maintenant, il faudrait un peu laisser les Cubains tranquilles », pour lui rappeler que dans sa campagne électorale, il avait laissé entendre que probablement il faudrait revoir la question. On se souvenait que du temps où il était vice-président sous Obama, Obama avait fait un petit geste d'ouverture pour un peu faciliter les relations avec l'île. Et donc, les 100 démocrates qui ont signé ce texte lui rappellent que, du temps d'Obama, il avait participé à cette politique-là et qu'il serait temps qu'il y revienne. Alors, 100 démocrates, c'est beaucoup. C'est en même temps pas la majorité du camp des démocrates, mais c'est beaucoup dans une chambre de 400 personnes. C'est pas un ou deux isolés d'origine latino. Il y en a comme Alexandra Ocasio-Cortez. Alors, je tire un coup de chapeau à cette occasion à une élue démocrate de Californie qui s'appelle Barbara Lee, qui, depuis le début de la guerre d'Irak, a toujours voté au Congrès, souvent toute seule, contre les guerres des États-Unis. Alors, un coup de chapeau pour Barbara Lee, elle le mérite bien, même si ça n'a pas effet au bout de fait. Mais enfin, ça veut dire, et je résume très simplement, que dans un pays qui est dangereux, guerrier, belliciste, il y a des représentants politiques qui sont propres et courageux. Tant mieux, même s'il n'y en a pas assez, il faudra bien un jour qu'il y en ait un peu plus. Mais donc, un coup de chapeau pour Barbara Lee. Voilà, que vous pouvez trouver sous son nom sur Internet sans problème. Et donc, elle est de ce groupe. Mais là, le groupe s'est très largement amplifié, puisqu'il y a 100 élus du Congrès qui ont demandé à Biden de desserrer un peu l'étreinte. Ils ne lui ont pas dit de tout lâcher, hein, mais de desserrer un peu l'étreinte sur l'île de Cuba. Ça, c'était la première annonce que je voulais faire. Et puis, des petites nouvelles au passage. Une petite nouvelle concernant la Chine et l'Australie. Alors, vous savez, on a tous compris qu'il y a donc eu un accord entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne pour que les États-Unis fournissent des sous-marins nucléaires à l'Australie. Bon. Alors, ça veut dire qu'il y aura sur la côte australienne des ports ou un port, mais probablement un au moins, mais peut-être deux, où il y aura une installation pour que ces sous-marins nucléaires qui seront fournis progressivement, alors c'est pas pour tout de suite, hein, mais il faut le temps de les fabriquer et de les envoyer en Australie, mais pour que ces sous-marins puissent venir changer leur équipage, changer alors ce sous-marin à propulsion nucléaire qui donc devront changer de temps en temps les aliments nucléaires de leur moteur. Et la Chine a mis le doigt là-dessus, parce qu'elle a bien compris qu'effectivement ces sous-marins étaient destinés à venir lui tirer la langue le long de ses côtes. Bon. Et la Chine a mis le doigt là-dessus sous la forme suivante, en disant le fait qu'il y ait des installations de type nucléaire où on va charger et décharger des combustibles nucléaires pour des moteurs nucléaires fait que l'Australie, qui n'était pas une puissance nucléaire, devient de ce fait une puissance nucléaire. Il y aura sur le sol de l'Australie, sur des navires australiens, des installations, des moteurs nucléaires et du carburant pour ces moteurs. Et la Chine dit à l'Australie, elle lui écrit « Vous avez signé le traité de non-prolifération nucléaire. Là, vous êtes en train de ne pas respecter les règles du jeu. » Et elle ajoute, et c'est là que ça veut dire qu'elle est allée assez loin dans l'étude du dossier, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui, vous le savez, je le rappelle, est chargée d'aller inspecter dans les pays qui ont signé le traité de non-prolifération s'ils respectent les consignes. Donc l'agence envoie des techniciens, des experts dans les installations nucléaires de ces pays-là, et ils vont voir si effectivement le pays qui a signé respecte sa signature. Et la Chine dit, dans la mesure où vous aurez avec ces sous-marins des installations nucléaires sur ces bases, l'AIA devrait venir. Mais la Chine est allée plus loin, elle est allée regarder dans le détail. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'a pas prévu ce cas-là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas habilitée, et la signature que l'Australie a donnée à ce traité à l'époque ne donne pas le droit à cette agence d'aller regarder les moteurs des sous-marins nucléaires. Et la Chine dit, alors là, vous êtes en train de tricher avec votre signature. Et là, elle s'en prend aux Australiens, sans dire que vous le faites, bien entendu, puisque c'est les États-Unis qui vous fournissent le matériel. Mais vous devenez de facto une puissance nucléaire, sans contrôle. Et ça, c'est très intéressant du point de vue politique, parce qu'il faut savoir que, d'une part, dans la population australienne, le sentiment antinucléaire était fort. Je rappelle, même si ce n'est pas notre avantage, que du temps où la France, jusqu'en 1995, a mené des essais nucléaires dans le Pacifique, alors pas sur la côte australienne, mais quand même pas très loin, et puis il y avait quand même des matériaux radioactifs qui volaient dans les airs, des matériaux radioactifs français, d'origine française, la population australienne, à l'époque, s'était beaucoup mobilisée, comme la population néo-zélandaise, en disant à nous, la France, vous venez faire vos cochonneries dans notre secteur, on n'en veut pas. Ce sentiment antinucléaire est resté très fort en Australie, ce qui explique d'ailleurs que le pays a signé le traité de non-prolifération. Bon. Donc, ce geste de la Chine est un geste adroit, puisqu'il consiste à dire au gouvernement australien actuel, qui est très, très, très à droite et très pro-américain, vous êtes en train de vous embarquer sur un terrain glissant. Et ils le font suffisamment à temps, puisque ce n'est pas demain matin que les sous-marins nucléaires états-uniens vont arriver, vont commencer à être installés dans les bases. Voilà, ça c'est les petites avancées diplomatiques comme il y en a de temps en temps. Une autre avancée, non c'est pas une avancée, là, je parlais des élections en Libye. Alors il devait y avoir, c'était au calendrier officiel, des élections pour un gouvernement unitaire et un président en Libye. En fait, bon, il est clair aujourd'hui, vu la date où nous sommes, que ces élections n'auront pas lieu. Ces élections n'auront pas lieu parce que le consensus est arrivé enfin, entre l'ONU et puis entre les différentes puissances qui essayent de mettre leur grain de sel dans les affaires libyennes, que si ces élections avaient lieu, il y avait de fortes chances pour que le fils de Muammar Kadhafi les gagne. Et donc ça, personne n'en veut, sauf lui certainement. Et donc on est en face aujourd'hui d'un partage en trois, deux faits politico-militaires du territoire libyen. D'un côté, la Cyrénaïque, donc le côté est, qui est dirigé par le général Haftar, qui se voit bien lui-même président. Du côté Tripoli, un autre personnage qui se voit bien président. Et en fait, la force de Saïf al-Islam, donc le fils de Muammar Kadhafi, c'est le Faisan, donc la partie sud, et tous les tribus qui la composent. Oui, et des militaires. Voilà. Et en fait, chacun aussi a ses forces militaires. Et donc, en fait, c'est pas possible aujourd'hui de forcer à une élection, puisque ça serait une élection trichée et que personne veut voir le fils Kadhafi gagner. Donc, la diplomatie internationale tourne autour du pot, mais il y aura pas d'élection dans le courant du mois de décembre 2021. C'est à peu près sûr. Ceci étant, on sent que la situation a mûri, puisque dans un premier temps, les adversaires potentiels au moment de l'élection, donc que ce soit ceux de Tripoli ou ceux de la Cyrénaïque, ont voulu faire en sorte que Saïf al-Islam ne soit, el-Kadhafi ne soit pas candidat. Ça, je pense qu'il n'arrivera pas à l'empêcher. Donc il faudra, avant que l'élection puisse se tenir, qu'il y ait une espèce d'accord politique pour que, quel que soit le résultat de l'élection, on ne s'entretue pas après. C'est ça qui va se passer dans les 6 mois qui viennent, je pense. Mais la situation a mûri. La situation a mûri et Saïf al-Islam a bien fait de prendre son temps, de rester d'abord, il est resté clandestin, puisqu'il est recherché, je vous le signale quand même, le plus longtemps possible, et il est réapparu sur la scène politique en disant « je suis là ». Il a obtenu de présenter sa candidature après un premier refus, et donc il fait partie du paysage politique, il est désormais incontournable. Il a ses bases arrières, son territoire, il a ses forces armées, et donc il va falloir que quelque part, plutôt que de redémarrer dans la guerre civile, ce que personne de raisonnable ne veut, on en arrive à une élection tranquille. On n'en est pas tout à fait là, mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est simplement.
Il est recherché par la CPI ?
Oui, bien sûr, oui, parce que oui, pour faire bonne mesure, on lui a mis des crimes qu'il n'a probablement pas commis sur le dos. Mais comme ça, si on arrivait à le mettre en prison comme d'autres pendant quelques années, on l'enlèverait du terrain électoral. C'est un peu ça qui s'est joué.
Il a été emprisonné, il me semble.
Oui, puis après, il est parti.
Il
s'est enfui et on sait que dans la partie sud du territoire, dans ce qu'on appelle historiquement le Faisan, ceux du Nord, et ceux d'Haftar que ceux de Tripoli, ne peuvent pas aller le chercher. Ils ne pourraient pas y arriver.
Oui, ça, c'est vrai.
Voilà. Donc, et puis la Libye, c'est très, très grand. Hein, c'est très vaste, c'est pas facile. Voilà. Petite nouvelle. Autre petite nouvelle. C'est un vote qui a eu lieu à la Commission des droits de l'homme de l'ONU.
Oui.
Ah, c'est assez intéressant. À la Commission des droits de l'homme de l'ONU, la Russie propose une résolution en demandant à ce que l'Assemblée générale condamne le nazisme en tant que catastrophe politico-militaire, humaine, qui a marqué le XXe siècle.
Bon. C'est bien.
C'était une excellente initiative, d'autant plus qu'ils ont des inquiétudes d'une espèce de renaissance ici et là de certaines formes de nazisme. Eh bien, il se trouve que les États-Unis ont opposé leur veto. Alors, pas tout seul, parce qu'à cette commission, il y avait aussi un représentant de l'Ukraine.
Ouais.
Et quel est le deuxième pays qui a voté contre la reconnaissance du nazisme ? C'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine parce qu'il faut se souvenir que une partie des Ukrainiens de l'époque, hein, donc dans les années de la Deuxième Guerre mondiale, a travaillé de façon très, très étroite avec les nazis, avec les troupes SS. Une partie des Ukrainiens, il y a eu des Ukrainiens qui étaient fascistes, nazis, qui étaient antisémites et qui faisaient des pogroms juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Et jusqu'à présent.
Voilà. Ça fait partie de l'histoire de l'Ukraine. Et donc l'Ukraine, en fait, était bien obligée de ne pas voter cette condamnation du nazisme, puisqu'au fond, il y a aujourd'hui encore, dans les partis qui soutiennent le gouvernement du président Zelensky, des gens qui se réclament des groupes pro-nazis ukrainiens de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils étaient mis au pied du mur. Alors c'est très, très, très intéressant pour la suite des événements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir à Kiev est dans l'incapacité de s'en prendre aux composantes nazies de son gouvernement et de ses partis politiques. Ça va servir pour la suite. Bien. C'était bon de le rappeler. Et puis, qu'est-ce que je voulais donner aussi comme petite nouvelle ?
Est-ce qu'on en a parlé de l'Amérique du Sud, il y a la Chili ?
Oui, non, ça, je vais y venir. Je vais y passer. Oui, Abim me demande si je vais parler du Chili, bien entendu. Je vais parler abondamment du Chili.
Ouais.
Avant d'aller au Chili, je vais faire un tout petit tour au Brésil. Sous la forme d'un témoignage, alors on va entendre la voix de Lula, donc qui, vous savez, lui est libre, finalement, après toutes les difficultés qu'on lui a faites, y compris sans motif, pour éviter qu'il se représente au présidentiel, mais je pense qu'il pourra se présenter à la fin 2022. Mais il avait fait, c'était pas il y a quelques jours, c'était à la fin de l'année dernière, une intervention pour défendre Assange. Et on va en passer quelques mots, parce que c'est en brésilien, il a une voix un peu cassée, mais on va entendre quelques mots, parce que vous entendrez dans ces mots, c'est du brésilien, donc c'est du portugais brésilien, mais vous allez entendre parler de ce qu'il dit, en gros, je vous résume, parce que j'ai lu les sous-titrages tranquillement, c'est que tous les démocrates, qu'ils soient dans les syndicats, qu'ils soient dans des partis politiques, qu'ils soient dans les ONG, devraient être dans la rue pour soutenir Assange. Parce que Assange n'a commis aucun crime. Il a dit la vérité sur les crimes des autres. Les autres, je pense, ça veut dire les États-Unis. Voilà. Donc, il s'étonne, et à juste titre, il s'étonne, et on peut s'étonner, qu'il dit tout journaliste honnête devrait protester contre le sort qui est infligé à Assange. Et il ajoute que tous les partis, tous les gouvernements démocratiques, ne pas soutenir Assange, c'est un déni de démocratie. Si dans la démocratie, on ne peut pas critiquer le gouvernement, surtout quand il ne fait pas simplement des bêtises, mais qu'il fait des horreurs, où va-t-on ? La démocratie ne mérite plus son nom. Voilà. On écoute quelques secondes de Lula défendant Julian Assange.
Bom dia. Eu queria te dizer a você, a todos os líderes do mundo, ao Trump, ao primeiro-ministro inglês, ao primeiro-ministro francês e ao mundo inteiro o seguinte: o Assange deveria, nesse momento, estar sendo definido como um herói da democracia, como um herói da liberdade, como um herói da comunicação, como um cara que prestou bem à humanidade, sabe, denunciando os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos da América do Norte. Eu até disse ontem que ele deveria estar sendo votado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Porque se os democratas do planeta Terra, envolvendo todos os jornalistas, todos os advogados, todo sindicalista, todo político, não tiverem coragem de se manifestar em defesa do Assange, para que ele não seja extraditado, significa que tem muitos democratas mentirosos. Significa que a liberdade de imprensa, tão cantada em versos prosa pelos donos dos grandes jornais, é mentira. Porque o Assange não merece ser punido.
Voilà, on ne va pas en écouter plus, mais vous avez compris. Il en appelle à tous les leaders du monde. Il en appelle à Trump, je dis, c'était l'année dernière. Il en appelle au Premier ministre français. Bon, je pense qu'il voulait s'adresser à Macron, Premier ministre, en disant, vous devez intervenir. Un monsieur qui dit la vérité, il ne peut pas être condamné. Hein, et il n'a commis aucun crime, puisqu'il parle de ceux qui en ont vraiment commis. Et c'est ça la question. Et à la fin, un peu plus tard, il dit, mais quand est-ce qu'il aura le prix Nobel de la paix? Parce que lui, il le mérite vraiment. Ouais.
Bon. Où est la démocratie ?
Voilà. Et où est la démocratie ? Hein, il dit, en fait, et il dit, Assange est un héros de la démocratie, vous avez entendu. Hein, et c'est un héros. Hein, ouais, ouais. Voilà, c'est un, voilà. Voilà ce que je voulais dire, parce qu'on est encore là. C'est-à-dire que je rappelle que la cour d'appel du premier jugement sur la demande d'extradition a confirmé le premier jugement. C'est-à-dire que la magistrature anglaise est d'accord pour accepter la demande d'extradition des États-Unis. Hein, qui n'est pas encore arrivé. Et je rappelle que ce jugement de la Cour d'appel peut être, est-ce que c'est le cas d'ailleurs, il va passer dans un système qui est une espèce de cour de cassation à l'anglaise, donc il n'est pas encore certain d'être appliqué. Mais on en est à des batailles juridiques qui se jouent avec, dans des petits auditoires pour des petites quantités de militants, etc. Effectivement, il manque vraiment et décisivement un engagement clair des grandes puissances. Alors, vous savez qu'il y a quelques députés français, mais pas nombreux, qui ont demandé à ce que la France donne asile à Julian Assange. Il y a eu des choses comme ça. Mais on est très, très loin de la mobilisation de masse pour défendre quelqu'un qui a dit la vérité sur des criminels qui sont en liberté et qui voudraient bien continuer à le rester. C'est ça l'important. Voilà, ça c'était les petites nouvelles pour commencer. Et puis je vais en arriver donc à une question qui a beaucoup agité beaucoup de gens ces derniers jours à Islamabad. Vous savez, Islamabad, c'est la capitale du Pakistan, qui a été donc une réunion des ministres des Affaires étrangères d'une organisation internationale qui s'appelle l'Organisation de la Conférence islamique. Alors, on n'en parle pas beaucoup parce que la France n'en fait pas partie, bien entendu, mais il y a quand même 57 pays qui sont membres de l'organisation de la Conférence islamique. Et ils étaient réunis donc à Islamabad, au Pakistan, à l'invitation du Premier ministre pakistanais, M. Imran Khan. Et donc, tous les ministres des Affaires étrangères de ces 57 pays se sont réunis pour parler de l'Afghanistan. Et ils ne se sont pas réunis entre eux. En plus, ils ont invité des pays qui ne sont pas membres de cette organisation, à commencer par les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'ONU en tant que telle, l'Union européenne en tant que telle, et un certain nombre d'organes officiels de l'ONU, genre Organisation mondiale de la santé, etc. Ne manquez à cette table ronde très très large que l'Inde, parce que vous avez compris que pour le Pakistan, c'est un peu difficile d'inviter les Indiens avec lesquels les relations ne sont pas toujours bonnes. Mais à part ça, tous les gens importants étaient là. Et on a parlé de l'avenir de l'Afghanistan. Et la thématique, je la résume, mais c'est très simple, c'est dire l'Afghanistan, aujourd'hui, est dans une situation catastrophique. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture, rien ne fonctionne ou quasiment rien. Il ne faut, alors, le discours qui a été tenu, y compris par le Premier ministre pakistanais, qui a eu un rôle tout à fait remarquable dans l'opération, c'est de dire, je ne devais pas juger ce pays à travers son gouvernement. Juger qu'il y a là 40 millions de personnes qui sont dans des circonstances les plus dramatiques possibles et que vous devez aider, nous devons tous aider le peuple afghan pour sortir de cette crise dramatique dans laquelle 20 ans de guerre lui ont mis. C'est ça le discours qui a été tenu, qui a été repris beaucoup. Mais enfin, d'entrée, Imran Khan a bien posé les termes du débat en disant il ne s'agit pas de dire si on reconnaît le gouvernement taliban, si on le soutient, si. Non, on soutient 40 millions de personnes qui sont dans la difficulté ou dans la misère. Et si on ne les aide pas, l'hiver est là, en plus, ça n'arrange rien. Si on ne les aide pas, on a une catastrophe humaine de très, très grande ampleur en plein milieu du continent. Et le Pakistan pouvait ajouter, y compris à nos portes, puisqu'il a dit, rien que chez nous, il y a entre 3 et 5 millions de réfugiés afghans. Les Iraniens peuvent certainement dire la même chose, les Ouzbeks aussi, les Tadjiks aussi, il y a des Afghans partout. Vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup en France, parce qu'un certain Emmanuel Macron a dit, souvenez-vous, le 16 ou le 17 août, « Moi, je ne les veux pas hein. ». Bon, il avait consulté personne, mais c'est son bon cœur qui a parlé tout seul devant les caméras, on l'imagine. Bon. Mais le problème posé, donc très correctement par Imran Khan, c'est bien celui-là. Il y a 40 millions de personnes en souffrance à la suite d'une guerre qui n'a pas servi à grand-chose, si ce n'est à abîmer ce pays et à faire souffrir sa population. Il faut maintenant en sortir. Et on a besoin de beaucoup d'argent, d'aide, mais ciblée pour les routes, pour les hôpitaux, pour les écoles, etc. Et il a ajouté... Et je le souligne, parce que on attend, enfin, certains ne voudraient pas entendre ça, mais qu'il a ajouté, il était très important de donner toute leur place aux femmes. Ça, c'est le Premier ministre du Pakistan qui le dit. C'est, alors, et il le dit aux Saoudiens en même temps. Il le dit aux Émiratis. Hein, il le dit à tous.
Le peuple, enfin, oui. Le peuple islamique, musulman, quoi. Oui, oui. Il représente 1,5 milliard.
Oui, voilà, c'est donc, oui, c'est ça, les 57 pays. Voilà, c'est Habib qui me fait remarquer, les musulmans dans le monde, c'est 1,5 milliard de personnes. Hein. Donc, c'est très, très important. Et là, ils étaient tous là. Mais ils sont sur des positions différentes. Alors, tous ceux qui ont de l'argent, tout de suite, ils ont dit, on va en donner. Et c'est bien le moins, bien sûr. Hein. Mais quand le Premier ministre pakistanais leur dit aussi, en les regardant bien droit dans les yeux, il dit ça aux Saoudiens, il dit ça aux Qataris, il dit ça aux Émiratis, il faut que les femmes aient leur place. Suivez mon regard, ça veut dire. Hein. Il le dit parce que, alors lui, on ne peut rien lui reprocher. Souvenez-vous, vous souvenez de Benazir Bhutto? Hein, premier ministre pakistanais, c'était une femme remarquable.
Femme, oui.
Voilà. Ouais. Donc, il n'a pas de leçon à recevoir de ce côté-là, le Pakistan. Mais il peut dire aux autres.
Ça, au lieu de dépenser des milliards sur le Yémen.
Voilà. Tout à fait. Voilà. Et Habib ajoute, voilà, au lieu de dépenser des milliards pour détruire le Yémen, feriez mieux de donner des soutiens au gouvernement afghan et à l'Afghanistan. Et ils ont tous rappelé qu'effectivement, les avoirs du gouvernement afghan étaient gelés pour l'instant à l'étranger, qu'on ne leur donnait même pas l'argent qui était le leur. Alors, on n'a pas su si du côté des États-Unis, il y avait une réaction vive à cette prise de position. Mais enfin, elle pèse très, très lourd parce que tout ce qu'il y a, il y a un document final. Alors, il n'y a pas d'échéance, mais il y a quand même beaucoup d'engagement sur la base, donc, respect de toutes les femmes, respect des enfants, respect de la condition des citoyens. Et après, la question de la reconnaissance du gouvernement a été débattue. Et ce qui est fait consensus, c'est que ce n'est pas le problème qui est à l'ordre du jour. On verra après. Qu'il fasse ses preuves, ce gouvernement. De toute façon, il est là. Hein, tout le monde peut le voir. Hein, il faut lui laisser le temps de faire son travail. Il faut l'aider parce que ce n'est pas lui qu'on aide, c'est les 40 millions d'Afghans. À partir de ce point de vue, on devrait arriver à sortir de l'impasse dans laquelle 20 ans de guerre ont mis ce pays. Et tous les voisins, parce que quand le Premier ministre pakistanais dit qu'il y a 3 millions de réfugiés à la frontière, en plus... Ils sont malheureux, et il faut que je m'en occupe. Là-dedans, alors en plus, ce qu'il faut savoir, et il l'a dit, et ça a été dit dans des papiers qui ont circulé à ce moment-là, c'est que quand vous mettez des millions de réfugiés dans des conditions précaires, dans tous les cas, alors c'est plus ou moins précaire selon les endroits, et qu'au milieu, il arrive des gens de Al-Qaïda pour dire « il n'y a qu'à tout faire sauter, tirer dans le tas, etc. », ça n'arrange pas les choses. Et c'est ça aussi qu'il faut éviter. C'est-à-dire, tout bain de misère donne un terrain d'activité, un terrain de propagande aux éléments les plus fous. puisqu'on a affaire à des gens désespérés qui ne voient aucun avenir. Et donc, si on leur dit « Ah ben, il suffit de tout brûler », et voilà, la mécanique infernale est lancée. On la connaît, elle a déjà fonctionné. Bon. Alors moi, je me félicite que cette conférence ait eu lieu et qu'elle ait franchi un pas dans l'intelligence politique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire si le gouvernement taliban, il est bon ou mauvais. Hein. De toute façon, il est venu, un ministre des Affaires étrangères officiel, qui est en poste, qui a tenu des propos, d'ailleurs, relativement acceptables. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, il s'agit de savoir si on veut que ces 40 millions de personnes, plus peut-être la dizaine de millions qui est dans la nature, aux alentours, dans des camps divers, puissent se rentrer chez eux et construire l'avenir d'un pays. C'est ça, l'intérêt collectif. Cet exemple-là, d'ailleurs, cette démarche-là, peut être appliquée ailleurs, c'est-à-dire s'en tenir à la question des réfugiés. Alors, on ne l'a pas beaucoup fait. J'ai cité Macron qui ne voulait pas de réfugiés afghans. Mais s'en tenir à la question des migrants, comme on dit, des réfugiés, sans dire quel avenir est organisé pour le pays dont ils s'en vont et quelle est la situation politique, sociale, économique du pays dont ils sont partis. On passe un peu de temps, on va d'une misère à l'autre, on va d'une larme à l'autre, et on n'avance pas politiquement. Donc ça, c'est très exemplaire, et je suis très content que M. Imran Khan ait mis tout son poids. Alors le Pakistan, je rappelle, c'est d'abord, mais c'est pas négligeable non plus, 220 millions d'habitants, un détenteur de l'arme atomique, un pays qui pèse son poids, et qui, là, pèse un poids dans le sens d'une plus grande humanité dans cette région-là du monde. Bien. Ensuite, alors je vais vous parler de l'histoire de traité de paix. Mais ça existe encore, il y a des gens qui parlent traité de paix. Alors vous savez, je reviens un petit peu en arrière, qu'il y a eu un assez long entretien, donc en distanciel, comme on dit, entre M. Biden et M. Poutine. À la suite de quoi, alors il y a eu différents commentaires. Et puis ça a pris cette dernière semaine un aspect un peu cocasse, puisque les Russes ont fait savoir qu'ils avaient transmis et qu'ils rendaient public un projet de traité de paix. Alors quand on dit « c'est pas simplement, moi je veux la paix », ça tout le monde peut le dire, ça coûte rien. Quand le président de la Russie dit « je propose, et voilà, j'ai rédigé, et mon ministre des Affaires étrangères le tient à disposition de qui le veut, un projet de traité de paix », c'est un traité de paix d'ailleurs pour la périphérie de la Fédération de Russie, hein, donc dans lequel il y a par exemple un article disant « il est interdit, l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN ». Oui. Les troupes de l'OTAN ne viendront pas à moins de X centaines de kilomètres des frontières russes. En échange de quoi la Russie fera ceci et cela. Bon, c'est un traité de paix avec tous les articles, tous les engagements des uns et des autres. Et la Russie dit, moi je propose ça, et ça je suis prêt à le signer. Bon. Alors ça donne un résultat assez étonnant, mais il y a plusieurs épisodes, et puis je pense que l'histoire n'est pas finie, elle n'est sûrement même pas finie. Dans les jours qui ont suivi donc la publication de ce projet de traité de paix, la Voix de l'Amérique, vous savez ce que c'est que la Voix de l'Amérique, c'est un organe de propagande audiovisuelle, radio, télévision, radio dans toutes les gammes, ondes courtes, ondes longues, modulation de fréquence et tout, qui a, je crois, une cinquantaine d'éditions dans des langues étrangères diverses et variées, qui couvre la totalité du monde et qui donc est le gros, enfin un point fort de l'appareil de propagande des États-Unis. Et quand donc la Voix de l'Amérique s'est mise à traiter de ce sujet, elle n'a pas présenté ça comme un projet de traité de paix. Elle a dit c'est un coup, une espèce d'arnaque aux échecs. Alors ça s'appelle un gambit aux échecs, c'est-à-dire pour ceux qui aiment les échecs, vous sacrifiez un pion central, la reine par exemple, pour obliger l'adversaire à riposter. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit en fait de la proposition d'un traité de paix qu'on met sur la table en disant voilà ce qu'on a proposé aux États-Unis, puis c'est à eux qu'on le propose. Voilà ce qu'ils veulent signer ou ce qu'ils ne veulent pas signer. L'opinion mondiale jugera. Hein. Ce n'est pas simplement un coup foireux dans une compétition aux échecs, ni au poker. Hein. C'est très, très sérieux. Il y a des milliards de vies en jeu. Ce n'est pas seulement des farces. Bon. Et donc, la Voix de l'Amérique dit « c'est pas sérieux hein. ». La Russie exagère, la Russie fait du bluff, la Russie dit n'importe quoi. Ouais. Alors ça, c'était la semaine dernière. Et puis hier, on était hier lundi, effectivement, le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, qui s'appelle Jackie Sullivan, je crois. Je ne sais pas si le prénom est exact, mais Sullivan, c'est sûr. Mmh. est intervenu pour dire qu'effectivement, ce texte était arrivé aux États-Unis, parce que pour l'instant, on n'avait pas de preuves. La voix de l'Amérique disant c'est une farce, c'est du bluff, c'est de la propagande, etc. Bon, quand même, quelque part, au département d'État, on l'a lu, à la Maison-Blanche aussi, et M. Sullivan a reconnu qu'il y allait avoir des contacts à des niveaux inférieurs, donc ce n'est pas les deux présidents qui vont se mettre autour d'une table et reparler, mais il y allait avoir des contacts sur ce projet de traité. Donc il a admis qu'il y avait bien un texte, qu'ils en étaient saisis et que finalement, ils ne l'avaient pas jeté à la corbeille. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et s'ils ne l'ont pas fait, il y a deux raisons. D'abord, qu'ils sentent que du fait que la Russie ait diffusé ce texte sous la forme où il est, c'est-à-dire des engagements concrets des deux parties sur un certain nombre d'engagements très très clairs, écrits avec des systèmes de contrôle, il y a tout ça dans un traité de paix, hein. Le fait est que ça a été mis en circulation, ça oblige les États-Unis à se positionner, et puis ça a amené la Russie, alors son ministre de la Défense, qui a dit après, de toute façon, si vous ne voulez pas de traité de paix, nous en prendrons acte. Mais ça ne va pas vouloir dire qu'on va se mettre à les siffloter dans les champs en disant que tout va bien. Hein. Si vous ne prenez pas acte et si on ne négocie pas sur un traité de paix, nous préparons la guerre, puisque vous l'aurez décidé de la faire. Et donc, et il a ajouté, on ne perdra pas notre temps. Hein, c'est-à-dire que voilà le jeu qu'on vous propose. Où vous venez négocier honnêtement à la table d'un traité de paix, ce que le monde entier souhaite, et nous les premiers, parce qu'on n'a pas envie, on a payé très très cher, rappelez-vous les 25 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas envie de recommencer ça. Mais si vous ne voulez pas, de toute façon, on ne se laissera pas marcher sur les pieds. Message très clairement compris, ce qui amène effectivement les États-Unis à entamer ce qu'ils appellent des négociations à un niveau inférieur. Alors ça va être des fonctionnaires, des diplomates du département d'État, mais on va commencer à parler sérieusement du contenu de ce traité et je vous en reparlerai certainement parce que je mets ça en perspective par rapport à tout. Alors il faut savoir que quand même du temps de la guerre froide, pour nous ici, citoyens apaisés dans des contrées tranquilles, on se disait que tout allait bien. Bon, il y avait la guerre froide, mais il y avait une espèce qu'on appelait l'équilibre de la terreur. Ça, c'est une façon d'écrire l'histoire pour les auteurs de romans policiers. C'était pas ça, l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur, c'était des traités qui étaient signés par les deux, URSS et USA, et qui disait qu'on ne faisait pas plus, on ne construisait pas plus de tonnes de bombes atomiques, on ne les faisait pas porter de telle et telle façon. Il y avait des contrôles respectifs des deux côtés, c'est-à-dire que des experts soviétiques allaient voir les stocks de bombes atomiques et les avions qui allaient les porter sur le territoire des États-Unis. Et réciproquement, il y avait des experts états-uniens qui venaient sur le territoire soviétique et qui regardaient les stocks qui allaient aux endroits. C'est ça un vrai traité de paix. C'est pas seulement on signe un papier, puis on le fait voler dans l'air et on s'en occupe pas. Non, non, il y a des conditions de contrôle. Hein. Parce que la bonne foi des auteurs, en plus on connaît la bonne foi de la signature des États-Unis, la bonne foi ne ferait. Alors ça a été ça. Et on a vécu une espèce de tranquillité naïve ici dans nos pays. C'est l'équilibre de la terreur. Ils se font peur l'un l'autre. C'était beaucoup plus organisé que ça. Hein. Il y avait des contacts entre les diplomates qui mettaient au point ces textes. Il y avait des contacts entre les militaires, chacun appréciant la réelle capacité de destruction de l'autre. Et puis il y avait des inspections croisées.
C'est-à-dire voir le problème de l'Iran. Hein.
Ben voilà, on allait voir exactement. On allait voir les uns chez les autres, et donc on ne pouvait pas tricher. Alors ce qui s'est passé effectivement, et il y a une espèce de retour en arrière qui a eu lieu sous Trump, c'est-à-dire que Trump a décidé de ne plus d'annuler pratiquement toutes les signatures des États-Unis. Alors on s'est retrouvé dans un vide que les Russes essayent de combler maintenant, en disant c'est bien joli ce vide, mais n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et quand on sait qu'il y a même des inquiétudes sur les capacités et la rapidité de réponse des systèmes de défense, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes de défense contre les missiles en particulier qui se déclenchent automatiquement, si on n'a pas prévu des systèmes pour les arrêter, il y a un risque réel dans une situation où il n'y a pas de contrôle, pas d'accord, pas de traité, où ils puissent se faire des bêtises. Mais ce n'est pas des bêtises à quelques centaines de morts, c'est des bêtises à quelques centaines de millions de morts. C'est ça. Bon. Là, alors, il faut être sérieux dans ces affaires-là. Et effectivement, c'est très triste que la voix de l'Amérique dise une espèce de coup tordu aux échecs. C'est pas très sérieux du tout. Mais c'est assez à l'image d'une partie de la classe dirigeante des États-Unis qui ne supporte pas d'être obligée de négocier avec quelqu'un d'autre. Mais ils l'ont fait avec les Soviétiques plusieurs fois. Je ne fais pas la liste des traités, elle est abondante. Chaque fois que Ils voyaient que les Russes allaient les dépasser dans une capacité nucléaire. Ils couraient à la table de négociation. Sans le dire, hein, mais ils savaient qu'ils étaient en position d'infériorité. Et dès qu'ils se retrouvaient en position de supériorité sur un vecteur nouveau, sur un type de bombe nouveau, ils avançaient tout seuls, ils ne voulaient pas négocier. Alors les Soviétiques couraient derrière, et à un moment donné, ils les rattrapaient. C'est ça l'histoire de la guerre froide. C'est pas autre chose.
Oui, oui.
Donc c'est un jeu. Alors c'est un jeu que la diplomatie soviétique et maintenant russe connaît sur le bout des ongles, et elle ne se laissera pas promener par des énervés qui se voient disparaître un peu le lustre de leur pouvoir. Donc c'est à suivre, mais je le ferai avec beaucoup d'attention, parce qu'on n'en parle pas, on nous... Enfin, l'apocalypse, ça s'évite, c'est évitable. Hein. Elle est possible parce que, évidemment, la quantité de bombes atomiques et leur capacité de pénétration, de destruction et les façons de les transporter sont telles que l'apocalypse est sur la table. Hein. Et donc, il faut que l'humanité raisonnable décide qu'elle n'aura pas lieu. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, aussi monstrueusement compliqué. Voilà. Oui, mais il fallait quand même l'expliquer. Un dernier sujet avant qu'on en vienne à une question importante qui est celle du... Ah oui, je reviens sur l'Afghanistan parce que c'est vraiment trop cocasse à propos de la signature des États-Unis. Vous savez, si vous vous souvenez du déroulement de l'année 2020, qu'en février 2020, les délégations diplomatiques des États-Unis et du gouvernement des talibans se rencontrent à Qatar.
Qatar, oui.
Et négocient un cessez-le-feu. Avec un engagement de retrait des troupes américaines qui a eu lieu à une date qui n'était pas encore fixée, mais qui était dans cette année 2021, c'était prévu. Alors c'est assez étonnant là aussi. Des documents du Pentagone viennent d'être déclassifiés sur les activités militaires de l'US Army, donc de l'armée des États-Unis, sur le territoire de l'Afghanistan, après la signature du cessez-le-feu. Eh bien, écoutez bien, ces documents déclassifiés du Pentagone montrent que entre mars 2020 et décembre 2020, il y a eu 400 frappes, plus d'une par jour, quasiment deux par jour. C'est-à-dire que pendant le temps où on négociait le retrait des troupes et qu'il y avait un état de cessez-le-feu qui était respecté par les talibans, les États-Unis, tous les jours, bombardaient. Bon, alors, c'est dire ce que vaut la signature des États-Unis. Et puis après... Biden a continué, en fait. Alors, il faut savoir que dans les trois mois précédant le départ des troupes des États-Unis le 15 août 2021, il y a encore eu 370 frappes de l'armée des États-Unis. C'est-à-dire qu'on était dans un état de cessez-le-feu. Vous voyez ce que ça veut dire, le cessez-le-feu à l'américaine ? Voilà, c'est ça. Hein. Alors là, il se passe quelque chose parce que on le savait un peu, mais tout le monde ne le savait pas, puisque dans les textes que j'ai pu lire, la mission de l'ONU qui était sur place, donc à Kaboul, avait pas compris, elle n'avait pas vu. Alors, on l'avait peut-être berné, elle n'avait pas des gens dans tous les coins de l'Afghanistan pour dire, là, il y a encore eu des bombardements cette nuit, etc. Et donc, elle n'avait pas alerté. Mais pour que ce soit le Pentagone lui-même qui dise, ben voilà ce qu'on a fait, je pense que c'est une indication intéressante sur les difficultés et les espèces d'incohérences, j'insistais beaucoup la semaine dernière là-dessus, les espèces d'incohérences qu'il y a au sein de l'appareil d'État des États-Unis, qui est manifestement très secoué par des divergences d'opinion, par des analyses contraires, les uns voulant jusqu'au bout de la domination, de toute façon on est les meilleurs, on va gagner, et les autres disant, c'est pas possible, on n'est plus pris au sérieux, tout le monde se méfie de nous, quelle place on a dans le monde futur ? C'est ces deux courants qui coexistent aujourd'hui. Il y a bien un jour un arbitrage qui se fera et on peut espérer qu'il sera dans le meilleur des deux sens, c'est-à-dire quelle place ont les États-Unis dans le monde de demain, qui est une place très honorable parmi d'autres, voilà. Mais c'est pas la place de dire je fais ce que je veux, ma signature ne vaut rien et je tue qui je veux quand il m'embête. On en est là. Dernier sujet que j'aborde avant de faire une petite pause chilienne. La situation économique en Turquie. Alors, situation économique en Turquie a subi une évolution extrêmement rapide ces deux derniers mois, en gros, puisqu'on a donc un effondrement de la monnaie turque, de la lire turque, qui a alors plusieurs effets. plusieurs effets. D'une part, le fait qu'il y a une inflation considérable qui a lieu, comme dans tous les cas où la valeur de la monnaie s'effondre. Donc là, les difficultés économiques des ménages turcs, ça s'accumule.
Donc ça, manifestations.
Voilà. Et donc, il y a la popularité du président en souffre beaucoup. Alors, et ça a toute une série d'effets étranges. D'abord, il faut savoir que la Turquie n'a pas de pétrole et pas de gaz. Donc quand la lire turque se dévalue, et à façon quasiment tous les jours maintenant par rapport au dollar, les importations de produits énergétiques se mettent à coûter de plus en plus cher. Et donc on risque d'avoir froid dans les maisons de Turquie cet hiver parce qu'il n'y aura plus assez de gaz et plus assez de pétrole acheté.
Ils voient assez le pétrole syrien.
Voilà, ils voient le pétrole syrien. Alors il y a un autre effet qui est un peu contradictoire, c'est que, Les entreprises turques, il y a des entreprises turques très actives dans toute une série d'activités, voient leur prix à l'exportation beaucoup diminuer. La lire turque ne vaut presque plus rien sur le marché mondial. Ils font de gros efforts pour vendre ce qu'ils peuvent à l'étranger, donc pour rééquilibrer une balance commerciale qui, par ailleurs, du fait des importations énergétiques, est très largement déficitaire. Alors, ça marche dans un certain nombre d'endroits. Et je voulais signaler, par exemple, qu'il est arrivé dans un port cubain, qui s'appelle Port Mariel, donc est un port nouveau, il est arrivé donc une centrale électrique flottante fabriquée en Turquie. Parce que, alors ça a l'avantage qu'il arrive un gros bateau avec des groupes qui ont des turbines et qui font de l'électricité et qu'on branche sur le réseau terrestre. Bon, alors ça, le gros avantage, c'est que quand le bateau arrive, le temps de brancher, enfin, c'est l'affaire de quelques semaines, et plutôt que de construire une centrale électrique à partir de zéro, elle arrive toute construite. Voilà. Et ça vient d'arriver. Alors c'est la deuxième que Cuba achète aux Turcs et ils le font d'autant plus volontiers que les produits turcs valent de moins en moins cher. Donc ça rend la chose beaucoup, beaucoup plus facile. Et donc là, on a effectivement une espèce de fuite en avant du gouvernement de M. Erdogan qui veut essayer de sortir le pays de la difficulté dans laquelle il se trouve, qui est très très forte, qui veut en même temps éviter de tendre la main au Fonds monétaire international, car, bien entendu, ce monsieur, il sait de quoi il parle, c'est-à-dire que si vous tendez la main au Fonds monétaire international, il va vous mettre de l'argent dans la main, mais il va poser des conditions politiques. Et donc, M. Erdogan, il est bien embêté, parce que dans ces conditions politiques, on pourrait lui dire, mais retire-toi de Syrie, fais ceci ou fais cela. Et donc, ça, il n'en veut pas.
C'est ce qu'il va faire.
Mais, au fait, voilà, je partage tout à fait l'avis de la Bible, c'est que dans la difficulté dans laquelle il se trouve, qui met en cause, y compris son avenir politique, c'est pas du tout sûr qu'il tienne jusqu'aux prochaines élections qui sont prévues pour 2023, M. Erdogan devrait être beaucoup plus sage et se calmer sur le terrain de la Syrie. D'ailleurs, le président Bachar el-Assad a parlé de lui en disant, de toute façon, il a fait des commentaires sur la situation économique et politique de son pays. Il a dit, de toute façon, M. Erdogan est un voleur.
Okay.
Voilà, ça a été dit.
Clair.
Voilà. Bien. Alors, on va... Oui, non, vas-y, vas-y, Roselyne.
Je voulais ajouter que venait de se tenir le troisième sommet Turquie-Afrique.
Oui, exact. Alors, ça fait partie de la même politique, c'est-à-dire les produits turcs qui sont dans une certaine gamme de produits, de la métallurgie, ils sont très très forts aussi dans la réparation navale, des choses comme ça. Bon, ils arrivent à avoir des marchés qu'ils n'avaient pas avant parce qu'ils sont à des prix de plus en plus bas. De plus en plus, pour continuer à fournir.
Ils ont passé beaucoup d'accords avec la Côte d'Ivoire.
Voilà. Hein, parce que, et comme les Cubains. Donc c'est l'affaire de l'année, quoi, parce que les produits turcs se vendent à vil prix. Hein, et les entrepreneurs turcs préfèrent vendre des produits même pas chers que de... De toute façon, ils payent les salaires, ils les payent en lire. Donc, de toute façon, voilà. Et Erdogan joue ça. C'est-à-dire il est très actif sur le terrain international parce qu'il veut que ses entreprises continuent à gagner un peu d'argent. Voilà. Alors on va passer deux petites musiques l'une après l'autre. Je vous expliquerai. Il s'agit de versions de la même chanson. On passe la première. Donc vous la connaissez tous. C'est l'hymne l'hymne, pas officiel, mais de facto de l'unité populaire au Chili, donc de 70 à 73. Il s'appelle El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni ne sera jamais vaincu.
Thank you.
Ça, c'est une première version de El Pueblo Unido. Alors ça, ça se joue donc à la fin de l'année 2019 à l'occasion des grandes manifestations populaires qui ont eu lieu pour protester contre les conditions de vie, les conditions de vie, de l'extrême privatisation d'une économie. J'insiste là-dessus, car le Chili est ce qu'on fait de plus avancé dans l'extrême privatisation de l'économie, que ce soit les transports, la santé, l'éducation et tout. Et donc là, c'est un enregistrement qui est fait par un groupe qui s'appelle le Victor Jara Sinfonico. Et donc la salle chante, tape des mains et tout. Ça, c'est le premier aspect. Donc mobilisation populaire autour de ce chant, qui est le chant symbolique de l'unité populaire, donc du gouvernement de Salvador Allende de 70 à 73. Et puis on va un peu plus loin sur cette piste et on entend un groupe chilien qui la chante avec en pleine voix, qui s'appelle Inti Illumani. Voilà. On va un peu plus loin sur la bande, on va l'entendre, qui la chante de pleine voix et avec toute sa beauté. Mais là, c'est un concert. Passer donc au groupe qui chante. Non, il n'y est pas. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a d'autres. Alors là, on a la version populaire de rue, une version de manifestation. Ça a été beaucoup rechanté donc, au moment de ces grandes manifestations publiques de la fin de l'année 2019. Ça a été aussi repris dans la campagne électorale là, qui vient de s'achever, dont je vais parler, avec des tonalités diverses, parce que j'en ai écouté toute une série de versions, et il y avait des jours où c'était moins chaleureux que pendant les manifestations de 2019, il n'y avait pas le même type de mobilisation, il y a eu d'abord des inquiétudes, enfin, je vais venir à la question de la campagne électorale et de son résultat. Voilà. Alors ça, vous êtes un peu au courant, parce que c'était quand même la grande information sur les questions internationales de la journée d'hier, effectivement, il y avait un résultat qui était rassurant. Je rappelle pourquoi il était rassurant. Donc, on était au deuxième tour de cette élection présidentielle et il y avait face à face deux candidats. Un candidat, donc M. Caste, qui se revendiquait du programme de Pinochet, très clairement, dont le frère avait été un des dirigeants du régime de Pinochet, un des conseillers de Pinochet lui-même, donc ce n'était pas tout à fait par hasard, et puis dont le père, c'est reconnu, était un nazi, membre de la SS, était un colonel de l'armée de la Reichswehr, et le monsieur Kast ne se cachait pas de ses antécédents. C'était tout à fait clair. Donc on était face à cette espèce de caricature. Donc un monsieur arrivé là, donc comme d'autres nazis qui ont fui le Reich après la chute de Berlin en 1945 et qui ont laissé des traces dans leurs enfants qui partagent leurs idées. Ça, évidemment, c'était l'épouvantail. Puis il y avait en face de lui le jeune homme, donc je dis jeune homme puisque 35 ans, qui vient d'être élu donc avant-hier président de la République chilienne, donc M. Gabriel Boric. Qui était, alors je vais un peu revenir sur le détail, essayer de le présenter mieux, qu'on peut présenter comme un candidat de centre-gauche, ouais. Pour faire ça. Alors qui est, bon, M. Caste, j'insiste pas, donc parcours pro-nazi et farouche défenseur de la politique ultra-libérale suivie par le Chili dès l'arrivée de Pinochet au pouvoir et jamais remise en question depuis, car il y a eu ce qu'on appelait une transition démocratique, c'est-à-dire après la disparition de Pinochet, il y a un système qui a été mis en place, c'est la constitution rédigée par l'équipe de Pinochet elle-même, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui a fait que les évolutions, la sortie de la tyrannie, c'était quand même un régime très très modéré, où il fallait qu'il y ait, pour gouverner, une alliance entre le centre-gauche et le centre-droit. Je veux dire très concrètement entre le Parti socialiste et le Parti de la démocratie chrétienne. S'il n'y avait pas cette alliance-là, on ne pouvait pas... C'était interdit, puisque même dans une candidature aux législatives, vous deviez présenter une liste avec deux noms, un du centre-gauche et un du centre-droit. Il était impossible d'avoir une majorité de gauche dans ce système-là. Toujours en vigueur aujourd'hui. C'est ça qu'il faut. Et donc, en fait, on a eu un pouvoir moins violent, moins d'incarcération, moins de violence de rue. Mais la doctrine néolibérale et les politiques néolibérales ont continué sans arrêter jamais pendant les temps dits de la transition démocratique. Ce à quoi les manifestations de 2019 ont répondu, c'est-à-dire ce temps-là doit finir. On en a assez qu'il faille tout payer très cher, l'éducation à tous les niveaux, la culture à tous les niveaux, les transports en commun à tous les niveaux, etc. On en a assez de ce modèle. C'est ça qui se joue maintenant. Mais ce n'est pas joué. Ce n'est pas joué. Alors effectivement, Gabriel Boric, il arrive porté par ce courant-là de refus du néolibéralisme. Mais son programme... n'annonce pas, enfin il dit bien qu'il va falloir un peu changer les choses, mais il ne va pas beaucoup plus loin que ça. Pourquoi ? Alors pourquoi il ne va pas beaucoup plus loin ? Alors sans juger le personnage, on a déjà vu des articles disant c'est peut-être le nouveau Tsipras, c'est-à-dire arrivant par le centre-gauche et puis basculant de l'autre côté plus tard. On verra bien, et puis ça dépendra aussi de la façon dont il composera ses équipes, de la façon dont il gouvernera, du courage qu'il aura pour affronter ces problèmes-là, et de l'idéologie dont il est porteur, dont il semble pas... Enfin, c'est un élément modéré, disons, puisqu'il a été, on le connaît quand même un peu politiquement, puisque bien qu'il soit jeune, il a quand même été élu dans les avant-dernières législatives, donc en 2014, et on l'a vu fonctionner. C'est-à-dire qu'il se trouvait assez bien de fonctionner dans le régime que je vous ai décrit, centre-gauche, centre-droit, on fait avancer les affaires, mais on va pas beaucoup plus loin. Alors, il va avoir un peu plus de pouvoir. Il est président de la République. Enfin, il sera. Enfin, il est élu. Mais il faut voir là aussi qu'il y a une difficulté qui est dans cette Constitution. C'est pas la seule. Mais entre le jour de l'élection et le jour de la prise de pouvoir, il se passe 3 mois. Et je considère que 3 mois, c'est beaucoup, beaucoup trop long. C'est-à-dire que c'est 3 mois pendant lesquels il y a des négociations en coulisses. Alors, qui on prend au gouvernement, qui on prend pas, quelle loi on fait passer, etc., etc. Oui, oui. Oui, il sera président en exercice qu'au mois de mars. Et pour l'instant, le pouvoir est exercé par M. Piñera, super milliardaire, néolibéral, etc. Et donc, là, il y a une zone difficile. Mais là, à la limite, il y est pour rien. La Constitution, elle est comme ça. Imaginez en France un résultat où on a un résultat 41-59 hein, au présidentiel. Celui qui a 2% de plus que l'autre sait que pendant 3 mois, tout est négociable. Qu'est-ce qui va se passer dans les coulisses ? Là, les lecteurs, on dirait vulgairement, ne touchent plus sa bille.
Non, oui, bien sûr.
Tout peut se passer. Bon. Alors, ça, c'est la première difficulté. Mais ça, c'est le texte. La deuxième difficulté, c'est que le Parlement donc, chilien qui a été élu en même temps que le premier tour de la présidentielle est un Parlement à l'ancienne manière, c'est-à-dire la Constitution Pinochet, où personne n'a la majorité, et surtout pas Boric et les partis qui le soutiennent. Car Boric est à la tête d'une coalition de petits partis de gauche. Il a le soutien du Parti communiste chilien qui a refait surface et qui a des militants remarquables. Il a même quelques grands élus dans des mairies des principales villes du Chili. Mais c'est pas grand-chose. Donc il n'y a pas de possibilité de faire passer des textes que la droite ne voudrait pas. Hein, pardon. Ça, c'est la première. Deuxième chose. Il a été élu, l'année dernière, une assemblée constituante pour, effectivement, ça c'était le résultat des pressions populaires de masse de la fin de l'année 2019, il a été élu une assemblée constituante destinée à changer la Constitution, c'est-à-dire de passer, enfin, de tourner la page ouverte dans le sang le 11 septembre 1973 pour avoir une Constitution démocratique, où, effectivement, tous les courants puissent s'exprimer, et où il y ait donc des possibilités de transformation du pays qui ne soient pas simplement sous la botte des multinationales et du secteur privé. Cette assemblée constituante a été élue. Elle est très intéressante parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas partie du champ politique qui en sont membres, donc qui viennent de la base, qui ont des soucis de tel ou tel sujet. On dirait la société civile, pour faire simple. Ils sont là, ils travaillent. Il faut savoir qu'une fois qu'ils auront rédigé leur projet, ce projet ne rentre pas en vigueur. Il faut que le président décide de le soumettre à référendum pour qu'il soit approuvé par la population. Cette étape-là, alors on en avait froid dans le dos la semaine dernière, on se disait, si c'est Caste qui est élu, l'Assemblée constituante pourra bien rédiger n'importe quoi, l'autre ne la présentera jamais au vote, et donc la Constitution n'aura jamais changé. Bon. Là, il y a quand même un espoir, hein, il se peut qu'effectivement, Boric la projette sa Constitution et la soumette au vote du peuple. C'est encore une étape à franchir.
C'est long.
Après ça, une fois, alors ça peut être l'année prochaine, disons, enfin 2023. Une fois qu'il a soumis ce projet de constitution nouvelle, ouverte, non néolibérale, pas soumise aux diktats de la bourse et des financiers, il peut organiser des élections parlementaires sur les nouvelles bases, c'est-à-dire sortir du carcan de la constitution Pinochet. Et donc avoir à ce moment-là, peut-être, touchons du bois pour lui, avoir une majorité parlementaire qui aille dans son sens. Oui, enfin, Roselyne, regarde, on a affaire à une véritable course d'obstacles. Hein. Donc il faut bien connaître la réalité de cette situation. C'est pas facile. Alors, est-ce que le personnage va tenir ce rythme-là, ce choc-là ? C'est pas sûr, parce qu'effectivement, il n'est pas membre d'un parti. Il a une majorité électorale qu'il a soutenue, mais qui a un certain nombre d'élus au Parlement, mais pas tant que ça. Dans le camp d'en face, parce que bon, la droite, l'extrême droite chilienne, elle est battue dans les urnes. Elle n'a pas disparu de la scène. Elle a des amis, ici et là. Donc, dans le camp d'en face, on ne va pas lui laisser faire n'importe quoi. C'est tout à fait clair. Alors, c'est la capacité de ces gens-là à faire des choses horribles.
La Constitution.
Oui, voilà. Donc, voilà ce qui s'ouvre. Donc, on est content. Il est jeune. Il a 35 ans. Il a, on espère, de l'énergie. Il a été animateur du mouvement étudiant à un moment. Alors, ça me plaît dans sa faveur. Il a été des étudiants qui protestaient contre le coût des études universitaires. Ça, c'est tant mieux. Et ça reste vrai. Donc ça va être difficile. Alors je vais vous donner, pour résumer la situation, un commentaire de l'agence Bloomberg. Bloomberg, vous savez, c'est une agence de presse qui a été créée par M. Bloomberg, qui a été maire de New York en même temps. C'est une agence donc de financiers. M. Bloomberg est un grand milliardaire états-unien. Le commentaire de l'agence Bloomberg sur l'élection, alors c'était la veille, le samedi ou le vendredi avant le vote de dimanche, c'était « on a deux candidats ». Un candidat, il parlait de Caste, le néo-nazi, qui disait, il est, investor friendly. En anglais, ça veut dire favorable aux grands capitaux, enfin, aux investisseurs. Ah. Et puis, il parlait de Boric en disant, il va augmenter les impôts. Voilà ce que, vu du point de vue de la finance internationale, c'était, il y a un qui était très gentil avec le grand capital international, et l'autre qui allait faire des impôts, alors des impôts d'ailleurs, à ceux qui n'en paient pas assez, parce que ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, c'est pas sur le petit peuple chilien, c'est sur les autres. Il faut surtout pas toucher, pas plus qu'en France avec l'ISF, sur ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qui en gagnent de plus en plus. Ajoutez à ça que dans les jours précédant le deuxième tour du vote, la bourse de Santiago s'est vidée et qu'on sait absolument, dès aujourd'hui, il y a des journaux de gauche qui le savent, où sont parties les grandes fortunes chiliennes à partir de samedi dernier, hein. Bon, parce que le résultat, ils ont dû le sentir venir. Donc la bataille de chiffonnier qui est organisée par la droite chilienne n'est pas finie. Ils ont mis l'argent de côté pour qu'on ne leur touche pas. C'est-à-dire que M. Boric pourra dire « je mets un impôt sur les grandes fortunes » et les grandes fortunes, elles seront aux Bahamas, hein, ou ailleurs. À propos de Bahamas, allez, genre, je ne l'ai pas apporté, mais j'ai la liste des... Et je vous ai parlé des pays à décoloniser, la liste des pays à décoloniser arrêtée par l'ONU, j'en ai parlé à propos de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'il y en a 17. Sur les 17, il y en a deux qui sont français, donc il y a Papeete, enfin les territoires du Pacifique, et la Nouvelle-Calédonie. Il y en a deux qui sont aux États-Unis, je crois qu'il y a Guam et un autre. Tout le reste, alors je vous donne la liste des noms de tête, il y a les îles Caïmans, les Bahamas... tous les autres sont des colonies britanniques. Hein. Donc les paradis fiscaux sont des paradis gérés par les Britanniques. Il faut qu'on le sache. Hein. Donc ça fait 10 sur 17, hein, rien que ça.
Je voudrais 2 minutes.
Voilà. Et voilà. Alors, donc, je termine là-dessus. Donc, situation extrêmement ouverte au Chili, avec de grosses difficultés devant M. Boric. On salue sa victoire. On est rassuré. C'est pas un néo-nazi qui est président de la République. Donc, déjà, les voisins l'ont compris. Il y a eu des témoignages de satisfaction du président Arce au Bolivie, du président Castillo au Pérou, des Vénézuéliens, bien entendu. Mais il faut savoir aussi, dernière chose là-dessus, que M. Boric, pendant sa campagne, a dit qu'il a plutôt dit du mal du Venezuela et de Cuba. Donc il a rassuré l'électorat du centre-droit qui lui a bien rendu, puisqu'on sait que Mme Bachelet, ancienne présidente socialiste, mais confinée dans le système donc, de la constitution Pinochet, a appelé à voter pour lui. Donc le terrain est semé d'embûches. Voilà, je laisse pour finir un mot à Habib et puis on termine.
Oui, je voulais féliciter l'équipe algérienne. C'est pas tellement pour sa performance qu'elle
foot.
A gagné
de foot, oui.
Ouais, qu'elle a gagné le coupe de Qatar, c'est-à-dire tous les pays arabes. Je voulais féliciter cette équipe du fait qu'elle a porté deux de drapeaux, un algérien et un palestinien.
Voilà.
Et quand elle a réussi à gagner la coupe, elle a demandé à ce que l'hymne national algérien et palestinien soit diffusé, d'une part. Et d'autre part, cette équipe, c'est pas tellement pour sa performance. Au sport, on dit le meilleur gagne, c'est vrai. Mais c'est surtout, c'est significatif, elle a voulu démontrer aux dirigeants arabes que le problème palestinien, ils l'ont jeté à la poubelle. Certains. Bien sûr. D'autre part, je voulais dire aussi, cette équipe a voulu montrer au peuple arabe qu'il faut être solidaire avec le problème palestinien contre l'occupant. L'occupant, c'est Israël et c'est l'apartheid. Merci. Merci Radio Galère. Et voilà.
Merci Yamin. À la semaine prochaine.
Bravo.
Thank you.